Et nous poursuivons notre lecture dans l'Évangile selon Matthieu, dans ces textes qui nous sont proposés pour la période de Noël et jusqu'au début de l'année, jusqu'au dimanche de l'Épiphanie, dans Matthieu chapitre 2 et les versets 13 à 18. Quand les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi ! Prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les mages s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les mages. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie : « On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. » Donc texte de Noël, suite, pas suite et fin, puisqu'il y aura encore la fin de ce chapitre 2 dans quelques jours. Le texte que nous venons d'entendre n'est pas très confortable. On attend, on choisit autre chose en général, et puis on revient à Matthieu quand il est question de Jean-Baptiste, baptême, etc., etc. Mais ce passage-là est, disons, négligé, voilà, fréquemment. On le comprend un peu, parce qu'il fait partie de ces récits de l'Évangile, lus assez rapidement, qui contiennent des éléments sur lesquels on ne souhaite pas s'attarder, la fuite en Égypte, la menace d'Hérode, le massacre des enfants de Bethléem, tout ça tranche assez brutalement avec le caractère paisible de la crèche, la nature de leur quête, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils ont trouvé, tout ça nous ramène assez brutalement au ras du sol. Matthieu rappelle ici que la naissance de Jésus n'est justement pas ce que nous avons parfois fait de Noël, un conte hors du monde. C'est un événement plongé dans le monde et donc aussi dans sa violence. Et une nouvelle fois, parce que ça n'est pas la première fois, Joseph est averti en songe. Il s'agit de prendre conscience que l'enfant, sa vie, ce qu'il représente aussi, pas simplement sa vie physique, mais ce qu'il est appelé à être, et les parents le savent puisque ça leur a été annoncé, tout cela est menacé. Cette famille devient une famille déplacée, comme il y en a beaucoup, contrainte de quitter son pays pour simplement survivre. Et pendant qu'il trouve refuge ailleurs, malheureusement, tous les autres n'ont pas cette chance. Les enfants sont tués, les familles plongées dans le deuil. Matthieu n'évite pas ce fait, mais cite pour justifier, entre guillemets, ou pour dire que cela malheureusement devait arriver, une voix s'est faite entendre à Rama, on trouve cela dans le prophète Jérémie, des pleurs, de grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée parce qu'ils sont morts. Les Écritures, même quand nous en avons fait des contes hors du monde, ne cherchent pas à édulcorer ce que le monde est, la preuve. La Bible, ce récit-là, et bien d'autres, n'édulcore pas la souffrance, ne l'évacue pas, au contraire, elle lui donne un nom, une voix et aussi des larmes, parce qu'il faut bien que ces choses se disent et s'expriment. Aujourd'hui, ce texte nous invite d'abord à une lecture honnête et responsable. Il ne s'agit pas d'expliquer le mal par une volonté divine mystérieuse, et puisque c'était écrit, et puisqu'on peut aller rechercher la citation d'Ésaïe, eh bien, c'est normal, il fallait que cela arrive. Il n'y a pas de justification à aller chercher dans ce qui arrive, mais la volonté de Matthieu de relier cette violence-là à une violence similaire, très comparable à celle que traversait justement Jérémie plusieurs siècles plus tôt. Faire des passerelles expliquer, ce n'est pas excuser ou justifier. Le Dieu que révèle l'évangile de Matthieu n'est pas un stratège et encore moins un cynique. Le récit montre plutôt un monde où la violence arrive par des personnages bien identifiés. Ce n'est pas de Dieu que cette violence est reçue, mais des hommes de pouvoir, encore une fois bien précis, bien ciblés par Matthieu, reconnus, identifiés, où le pouvoir qui est représenté règne par la peur, la paranoïa, et qui mène évidemment à de la violence. Elles produisent la mort, là où Dieu choisit plutôt, lui, de se rendre présent autrement dans la fragilité, peut-être la fuite provisoire, la mise à l'abri, dirait-on, dans la solidarité avec ceux qui sont victimes. Hérode, nous l'avons déjà rencontré dans les textes précédents, c'est la figure même du pouvoir inquiet, donc paranoïaque, donc dangereux, qu'on aimerait pouvoir manier avec des pincettes, mais quand on a quelqu'un comme lui au-dessus de soi, ça n'est même pas possible, à part fuir. Sa violence n'est pas exceptionnelle, elle est tristement banale. Il y a eu d'autres Hérodes avant lui, il y en a eu après. Cette violence ressemble à toutes les violences politiques, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, où des innocents paient le prix de la paranoïa ou des angoisses de gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour se maintenir tout en haut, en écrasant les autres au besoin. Matthieu ne nous invite pas à désapprouver, voire diaboliser un personnage ancien, ce qui nous permettrait de nous sentir à l'abri, nous savons que non, mais reconnaître plutôt un mécanisme toujours à l'œuvre et qui change de visage au fil du temps. Chaque fois que la peur gouverne, que l'autre est perçu comme une menace absolue, qu'il faut en finir avec lui, les catastrophes commencent, parce que la vie humaine est devenue secondaire. Face à cela, que nous propose Matthieu ? Il n'y a pas d'échappatoire magique. Une fuite, même provisoire, ce n'est pas une solution. Joseph ne reçoit pas l'ordre de combattre Hérode non plus, ni d'organiser la résistance armée, même si les différentes guerres juives de la fin du premier et du milieu du second siècle vont montrer que cette violence était portée à son comble. Joseph ne reçoit pas cet ordre. Il n'organise pas de résistance ou de lutte armée. Il reçoit l'instruction de protéger l'enfant tel qu'il est, pris là où il est dans sa fragilité, tel qu'il est apparu il y a quelques nuits. C'est cela qu'il faut mettre à l'abri. Ce n'est pas une solution héroïque ou spectaculaire. On n'en ferait pas un film. En tout cas, sans effets spéciaux, et les spectateurs se plaindraient de la faiblesse du scénario, sûrement. Certains quitteraient la salle même avant le générique. Il ne se passe pas grand-chose dans ce film. Mais fuir ici, ce n'est pas une lâcheté, c'est un acte de discernement. Qu'est-ce qui doit être mis à l'abri justement et sauvé ? C'est cette chose-là. Le plus précieux, le reste attendra s'il survit. Il y a des moments où résister, c'est savoir partir. Cette dimension résonne évidemment avec notre actualité et pas discrètement. Les grelots sont assez gros. Mais sans forcer le parallèle, nous savons que des familles fuient encore aujourd'hui pour protéger leurs enfants. Les routes de l'exil existent toujours. Elles ne sont pas seulement des images lointaines, ou plutôt elles sont des images très présentes de pays lointains, mais qui nous rendent contemporains de ces choses-là. Une réalité contemporaine. Relire Matthieu, c'est forcément penser à cela. Ce n'est pas plaquer une actualité sur le texte, c'est retrouver dans le fil du monde, constamment, hélas, les mêmes mécanismes de violence, le même besoin de fuir pour mettre à l'abri le plus précieux que l'on a, ses propres enfants ou son enfant, le prendre et le mettre à l'abri. C'est reconnaître que l'Évangile parle un langage qui traverse les siècles, parce qu'il touche à des expériences humaines fondamentales, même les plus terribles, même reproductibles. Mais le texte ne s'arrête pas à la fuite et aux larmes. Il pose aussi une question essentielle. Dans toute cette noirceur, Où est l'espérance quand le mal semble avoir le dernier mot? Après tout, dans ce génocide des nouveau-nés, il y en a peut-être quelques-uns qui ont échappé, dont le nôtre, si j'ose dire, mais tous les autres. Où est l'espérance quand le mal semble avoir le dernier mot à ce point, quand il arrive à ses fins? Rachel pleure et refuse d'être consolée. Cette phrase est importante, ce n'est pas qu'une citation opportune pour trouver dans la violence du présent, de la part de Matthieu, une justification dans le passé. Encore une fois, ce n'est pas ça. C'est nous dire, à la manière de Jérémie, le refus de cette violence. C'est dire le contraire que ne pleure pas, tout ira bien. Cette phrase ne précipite pas ou ne provoque pas ou n'appelle pas la consolation, elle ne la produit pas immédiatement. L'espérance biblique, ce n'est pas un déni de souffrance et elle ne commence pas par un acte magique non plus. Elle commence par la reconnaissance pleine et entière du monde comme il est. Souvent, dans notre culture, mais nous ne sommes pas les seuls, nous avons certainement confondu espérance et optimisme. L'optimisme, c'est peut-être croire que les choses vont forcément s'améliorer, c'est se sentir sur une pente ascendante, alors qu'on ne connaît pas la suite de la route, hein, bien sûr, mais c'est proclamer par avance que le chemin nous amène vers le haut, que le progrès est automatique, que le pire est toujours derrière nous, que nous avons fait le plus dur, etc. etc. L'espérance, ce n'est pas ça. Celle que propose Matthieu ici, plus sobre, plus lucide, elle ne nie ni les échecs, ni les reculs, ni les tragédies. On est en plein dedans. Elle ne promet pas non plus un monde sans violence. Ça ne va pas terrible, ça n'est pas terrible en ce moment, mais vous verrez, ça ira mieux après. Pas de promesse de ce type, pas de lendemain qui chante, pas de promesse d'un monde sans violence à court ou moyen terme. Elle affirme autre chose, que la violence n'est pas la vérité ultime du monde. Il y en a, il y en aura toujours, mais ce n'est pas cela, la vérité dernière du monde. L'espérance ici, sous la plume de Matthieu, prend la forme d'une vie préservée, une toute petite, extraite du grand massacre, parce que tous les autres n'ont pas eu cette chance. Pendant qu'Hérode foire, même un de ses enfants qui grandira ailleurs dans l'ombre et qui pourra revenir quand on le lui dira. Rien n'indique à ce moment-là que cet enfant changera le cours des choses. On n'en sait rien pour le moment. Mais Matthieu nous invite à relire l'histoire à partir de ce point tout petit, minuscule même. L'espérance n'est pas dans la démonstration de force, mais plutôt dans la persévérance du vivant. Pour nous, ça n'est pas et ça ne sera jamais une attente passive, l'attente d'une intervention surnaturelle ou magique qui réglerait tout à notre place. C'est plutôt un appel à une responsabilité partagée. Le mal n'est pas supprimé par décret, parce qu'on en a assez de lui, parce qu'on l'a assez vu. Mais Dieu ici suscite des chemins de vie au cœur même des situations menacées. C'est ça qu'il faut savoir reconnaître. Joseph agit, Marie aussi, l'enfant est protégé. Ce qui devait être fait a été fait. L'action des deux, qui est la nôtre, l'action de l'humanité qui essaie de se sortir de son ombre, fait partie de la réponse au mal, sans être ni idéalisée, ni sacralisée, ni parfaite, ni adéquate à tout moment. Cette lucidité, c'est-à-dire la capacité à regarder de la lumière quelque chose qui brille quelque part, c'est de là que vient le mot lucidité. Cette lucidité est précieuse aujourd'hui comme à l'époque. Nous vivons dans un monde traversé par toutes sortes de crises multiples, il n'est pas la peine d'en faire le catalogue. Nous l'avons sous les yeux chaque jour, toutes les tensions, toutes les fragilités aussi, y compris de celles de choses que nous avons crues solides longtemps et qui commencent à se fissurer, qui nous inquiètent aussi. Il serait tentant soit de céder au désespoir, soit de se réfugier dans des discours rassurants, mais assez déconnectés de ce qui se passe. Il faut éviter et l'un et l'autre. L'Évangile ici propose une autre voie. Regardez le réel en face, sans phare, y habiter tout de même, parce que nous n'avons nulle part où habiter. Ailleurs, discerner malgré tout des possibilités de vie. Matthieu ne dit pas que les enfants de Bethléem, qui ont été massacrés, sont revenus à la vie, ont ressuscité, que leurs parents ont été consolés immédiatement, qu'ils s'en sont remis, ces parents sans enfants. Le texte reste douloureusement ouvert. Il affirme que l'histoire de Dieu avec l'humanité ne s'est pas arrêtée là. La vie menacée a été atteinte, gravement, mais pas anéantie. Elle continue ailleurs, autrement, souvent de façon invisible, discrète. Et cette invisibilité fait partie de ce qu'on a du mal à comprendre dans l'espérance, mais qui persiste pourtant. Ça n'est pas toujours spectaculaire, ni immédiatement vérifiable, mais cette petite vie protégée n'a pas été arrêtée. Relire ce texte aujourd'hui, c'est peut-être accepter de renoncer à des réponses toutes faites. Reconnaître que la foi qui est la nôtre ne nous protège de rien. Pas de la souffrance de la nôtre ou de celle des autres à laquelle nous assistons, impuissants souvent. Mais qu'elle nous donne cette foi un cadre pour traverser la souffrance, la nôtre et celle des autres, sans perdre notre humanité, sans basculer du côté d'Hérode. Elle nous apprend à pleurer avec ceux qui pleurent, provisoirement, fuir peut-être avec ceux qui fuient et revenir avec eux quand on nous dit de revenir, quand c'est le bon moment, mais sans leur voler leurs larmes par des paroles trop rapides, être là, présent à leur côté. Elle nous apprend aussi à rester attentifs à des signes modestes de vie qui persistent, et nous les croisons tous les jours, nous y assistons, nous y participons aussi. Matthieu, c'est cela, peut-être une espérance raisonnable, une espérance qui sait ses limites, qui a su aller jusqu'où elle pouvait aller et pas au-delà. Elle ne prétend pas tout comprendre ni tout résoudre, elle ne transforme pas Dieu en alibi ni en justification de ce qui nous arrive. C'est déjà beaucoup. Mais elle nous invite aussi à faire ce qui est à notre portée. Et personne ne fera cette part à notre place. Protéger, accueillir, résister à la déshumanisation. Parce que quand on décide de massacrer toute une classe d'âge, c'est qu'on ne la considère pour rien. Ou toute une catégorie de personnes. Elle nous rappelle que chaque geste de protection de la vie, même modeste, s'inscrit dans une histoire plus large qui n'a même pas commencé au moment de ce texte. Elle était déjà ancienne à ce moment-là. Une histoire plus large, plus longue, toujours aussi tragique et que nous ne maîtrisons pas entièrement. Dans le récit de Matthieu, évidemment, Dieu n'est pas du côté d'Hérode, ni du côté des calculs de pouvoir, il est du côté de l'enfant menacé, de la famille vulnérable, et lui-même se souvient de la citation de Jérémie où il est question des pleurs de Rachel. C'est tout cela, Dieu. Ça ne supprime pas la tragédie, mais ça lui donne un nouvel horizon en se rappelant et en agissant dans le présent. Rien ne dit dans l'évangile de Matthieu, dans ce texte très court mais très dense, que Dieu serait pour quelque chose dans ce qui arrive. Tout nous dit au contraire qu'il accompagne les chemins fragiles de la vie à travers le mal et que s'il y a quelqu'un qui l'aide à s'en sortir, c'est sans doute lui et nous avec lui, puisque lui est avec nous. Dans ce sens, l'espérance est praticable, elle est quelque chose à faire. Elle ne se mesure pas à la certitude d'un avenir radieux, de promesses intenables, mais à la fidélité du présent, dans le présent. Elle nous appelle à être ici et maintenant des artisans de protection et de discernement, refuser la banalisation de la violence et ne pas accepter que ce soit elle qui nous dicte nos choix collectifs. Et là, il y a beaucoup à faire. Matthieu ne nous demande pas de croire contre la réalité, mais de croire au cœur de la réalité. Cette réalité est sombre, compliquée, on s'y perd parfois, souvent même. Elle est toujours ambivalente, elle est ce qu'elle est. L'espérance qui nous est proposée n'est ni naïve, ni désincarnée, elle est lucide, tenace, parce qu'elle connaît le prix de la vie. Elle sait où aller chercher cette petite chose qu'on ne doit pas laisser s'éteindre. Elle est raisonnable parce qu'elle s'enracine dans des gestes concrets à notre portée, fragile mais tenace, comme un enfant qui a été sauvé de justesse alors que toute sa classe d'âge, peut-être, ou une bonne partie, a disparu. Lui, en tout cas, sera appelé à grandir. Et bien que ce soit cette espérance-là qui nous accompagne, non pas pour nous rassurer à bon compte, mais pour nous aider à vivre et à agir sans renoncer à l'humanité que Dieu continue à faire naître, même petitement, même discrètement, même dans les nuits les plus épaisses. Amen.